Bonjour à toutes et à tous. Il est 12h30, donc je prends une toute petite minute pour accueillir les quelques retardataires. Bienvenue à la Galerie Eureka pour ce Entre Midi et Science. Ce rendez-vous s'inscrit dans la programmation des rencontres et des événements autour de l'exposition Super Ego, qui est notre nouvelle exposition et qui a ouvert ses portes il y a quelques jours, c'était plus précisément en début de mois. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un des nombreux sujets autour de l'égalité femmes-hommes. Et ce qui nous intéressait, c'était de nous questionner sur la place des femmes dans l'histoire. En effet, de tout temps, les femmes ont occupé un rôle très important dans la société. Pourtant, elles semblent être ignorées de beaucoup d'ouvrages d'histoire. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau, j'allais dire en tout cas dans notre salle de conférence, une historienne, Madame Corinne Bonafou. Merci beaucoup d'être présente. Vous présentez un petit peu plus dans le détail, donc vous êtes maîtresse de conférence. En histoire contemporaine, au laboratoire 2LCTI, je ne sais pas si on dit comme ça, donc je vais vous expliquer l'acronyme, c'est le laboratoire langage, littérature, société, études transfrontalières et internationales, donc à l'université Savoie-Mont-Blanc. Pour ceux qui ne connaissent pas les entre-midi et sciences, donc le principe est simple, hein, nous avons juste une petite heure sur la pause méridienne, donc que nous divisons en deux parties. La première partie, nous laissons l'intervenant présenter les éléments importants de la problématique et du sujet, pour garder la seconde partie, la deuxième demi-heure, plutôt pour un échange, un débat avec la salle. En tout cas, comme je vous disais, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. D'ailleurs, vous n'êtes pas venu seul, mais avec quelques-uns de vos étudiants que je vous laisserai présenter puisqu'ils vont participer justement à l'animation et au débat. Merci beaucoup et je vous laisse la parole. Vous avez un micro.
Bon, je suis bien heureuse d'être là parmi vous pour parler de ce beau sujet. Alors effectivement, c'est une intervention qui se fera à plusieurs voix, parce que lorsqu'on m'a fait cette proposition, j'ai pensé à des étudiants qui sont en master patrimoine et qui travaillent sur 2 ans un projet collectif. Bien entendu, ils en parleront plus tard. Ils vont travailler pour élaborer une exposition sur les femmes dans la résistance en Savoie. Ils vous en diront un petit peu plus. Donc, comme il y avait ce groupe d'étudiants qui travaillaient sur ce sujet, j'ai trouvé que c'était bien aussi de faire une place à la jeunesse et à ces étudiants qui travaillent fort bien. Alors, de mon côté, moi, je vais essentiellement vous parler de l'émergence, du développement d'une histoire des femmes. Lorsqu'on dit « invisibilisation des femmes », je ne vais pas m'intéresser ici à tout ce qui relève de processus d'infériorisation des femmes tout au long de l'histoire, pendant des siècles et des siècles, auquel cas il aurait fallu que j'accorde par exemple une place énorme au code civil au début du 19e siècle, mais plutôt vraiment à cette question, est-ce que l'histoire, est-il vrai ? Aujourd'hui, bon, ça, voilà, on dit, l'histoire ne s'est pas intéressée aux femmes pendant très longtemps. Alors déjà, est-ce que c'est vrai ? Pourquoi ? À partir de quand ça émerge ? Comment on traite cette histoire des femmes ? Alors, en même temps, ce sujet est immense, l'histoire des femmes. Il y a aujourd'hui des centaines d'ouvrages sur l'histoire des femmes, donc je vais limiter mon propos. Je parlerai essentiellement de l'émergence de l'histoire des femmes en France. Alors, dans cette premier point d'introduction, je voudrais m'intéresser aux raisons d'une invisibilisation dans l'écriture de l'histoire, pour rappeler d'abord que l'histoire, c'est une science humaine récente qui naît à la fin du 19e siècle dans le champ académique. Et qu'au moment où l'histoire naît, avec ses méthodes, eh bien, à quoi s'intéresse l'histoire à ce moment-là ? À l'histoire du politique, c'est-à-dire une histoire du politique, du gouvernement, du pouvoir, une histoire militaire, une histoire diplomatique. Or, bien évidemment, les femmes ne sont pas présentes dans ces domaines-là, et donc cette histoire, qui est d'abord une histoire du politique, ne fait pas de part aux femmes, parce que les femmes ne participent pas à ces sphères-là. Alors on pourrait dire qu'à l'époque médiévale ou à l'époque moderne, il y a eu des reines et que de temps en temps, on a eu des sujets, mais bon. Alors, en même temps, l'histoire, elle évolue, et à partir de la fin des années 1920, années 1930, il y a une nouvelle façon d'écrire l'histoire, c'est l'école des annales, où on va s'intéresser beaucoup plus à une histoire sociale. Et là, on pourrait s'attendre à ce que les femmes prennent toute leur place dans cette histoire-là. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Et cette école des annales va rapidement tourner à une histoire de l'économie quantitative et elle fait assez peu de place à une histoire des femmes. Donc c'est déjà plus surprenant à ce moment-là. En fait, la décennie où émerge une histoire des femmes, c'est la décennie 1970. Et je veux m'attarder un tout petit peu sur ce contexte des années 70. Bien sûr, on est dans le mouvement post-68. Et cette histoire des femmes, elle va être le fait de femmes, d'historiennes et de militantes féministes. Cette décennie 70, c'est aussi une décennie en fait, de grandes ruptures culturelles, de l'émergence aussi d'une culture jeune. C'est aussi, et j'en parlerai dans un autre sujet, la décennie 70, on l'a appelée la décennie de l'écologie, parce que toutes les grandes conférences, les premiers grands rapports, les premières grandes prises de conscience, voilà, c'est dans cette décennie-là que tout cela se noue. Et ce qui m'a semblé tout à fait intéressant, c'est de voir que lorsque les femmes élaborent un hymne féministe en 1971, par quoi commencent-elles ? Eh bien, par cette question de la non-écriture d'une histoire des femmes. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Donc vous voyez, ça veut dire qu'elles en font une sorte de priorité, de dire en fait, pour la revendication aujourd'hui de nouveaux droits, il faut déjà rendre plus visible le rôle qu'ont joué les femmes dans les décennies, voire les siècles passés. Une des pionnières de cette histoire des femmes, ce n'est pas la seule, mais il y a Michelle Perrot qui est devenue un petit peu une icône, on va dire, de l'histoire des femmes. Et dans ce début des années 70, après avoir travaillé, et ce n'est pas un hasard, elle a fait sa thèse en fait sur les ouvriers et sur les ouvriers en grève. Et ça, c'est un peu ce qu'on appelle les subaltern studies, c'est-à-dire l'étude des groupes dominés. Et elle passe du groupe des ouvriers à une histoire des femmes. Elle et puis Yvonne Gnibiller, Arlette Farge, Geneviève Fraisse ouvrent les premiers cours d'histoire des femmes à l'université, les premiers séminaires d'histoire des femmes. En même temps, comment parler des femmes? Comment parler en historien des femmes? Il faut éviter ce qu'on appelle l'essentialisation, c'est-à-dire les femmes. Et on va préférer dire des femmes, condition des femmes. Alors c'est tout un débat. C'est tout un débat. Si on prend ce point de vue-là, ça veut dire qu'on estime que des femmes, dans des milieux sociaux, géographiques, culturels, historiques différents, ont des conditions très différentes les unes des autres. Si on dit les femmes, ça veut dire que je les saisis essentiellement dans un rapport d'aliénation par rapport à une domination d'une société patriarcale et masculine, et que toutes ces femmes, malgré des variations dans leurs conditions sociales, sont soumises à ce lien. Toujours dans cette introduction, évidemment, on est passé, à partir de la fin des années 90, à ce qu'on a appelé une histoire du genre. Et bien souvent, celles qui pratiquent une histoire du genre disent « attention, arrêtez de parler de théorie du genre », parce que en fait, ce qu'on appelle le genre, c'est au fond quelque chose de très simple, c'est l'étude de la construction sociale des sexes. C'est-à-dire que les sexes, en dehors d'une identité biologique, sont des construits politiques et sociaux, et qu'on va s'intéresser à cette construction. Et c'est pour ça qu'avec l'introduction du genre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler sur l'histoire de la construction des identités féminines, mais aussi des identités masculines. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'ouvrages sur la masculinité dans différentes sociétés comme construction culturelle, politique et sociale. Alors, lorsque ces femmes se sont mises à travailler, à partir des années 70, tout était à faire, pratiquement, tout était à écrire, et elles pouvaient faire une histoire sociale des femmes à travers une histoire des ouvrières, une histoire des prostituées, une histoire des bourgeoises. Elles pouvaient travailler sur le rapport à la culture de ces femmes. Alors, la bibliographie est énorme, j'ai mis quelques titres, et puis c'est aussi pour évoquer ces historiennes, parce qu'il y a beaucoup plus d'historiennes qui ont travaillé sur le sujet que d'historiens. Christine Barr, Michel Rio-Sarcé, Mona Ozouf. Et puis, j'ai parlé de Michel Perrot, et j'ai fait un petit peu comme si on était à la librairie, qu'on avait des titres. Il y a eu l'encyclopédie emblématique en 5 volumes, Histoire des femmes en Occident. Je vous ai mis là les couvertures pour les 19e et 20e siècles. Michel Perrot a énormément écrit. Elle a aussi écrit son rapport personnel à cette histoire des femmes, mon histoire des femmes. Elle a fait un très beau livre sur l'histoire des chambres. Mais justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'en s'intéressant à cette espèce privée, elle a écrit une histoire des chambres pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Et le dernier ouvrage, Le temps des féminismes, c'est une interview qu'elle a donnée. Et c'est pour répondre à la question ou au propos, on ne naît pas féministe, on le devient. Et c'est de savoir comment elle est devenue féministe. Voilà, donc c'est dans ce dernier ouvrage. Toujours dans la bibliographie, il y a une magnifique revue qui s'appelle Clio, qui est une revue entièrement consacrée à l'histoire des femmes. Je vous ai mis là des derniers numéros pour vous montrer que les objets d'étude sont aujourd'hui très, très, très variés. Enfin, bien entendu, écrire une histoire des femmes, parce que vous savez, les historiens, le problème qu'ils ont, c'est qu'on ne peut écrire que pour autant qu'on a des archives, qu'on a des sources. Hein, si on n'a pas des sources, si on n'a pas d'archives, on est perdu. Et évidemment, sur un certain nombre de sujets, on n'a pas tant de sources que ça, ou bien des archives n'ont pas été gardées. Alors bien sûr, il y a les archives privées, les correspondances, éventuellement les journaux, mais par exemple, pour les mouvements féministes, toutes les archives n'ont pas été gardées. Mais ça a été aussi un objectif de ces historiennes, c'est de collecter, depuis ces années 70, conserver des archives pour écrire une histoire des femmes. Alors pour rendre compte un peu de ces résultats d'une histoire des femmes, comme je ne peux pas évidemment évoquer trop de sujets, j'ai choisi deux thèmes. C'est une histoire de la scolarisation des filles et puis une histoire du rapport aux politiques. Et j'ai choisi ces deux thèmes parce qu'il me semble que ce sont des leviers d'émancipation essentiels, la scolarisation et le rapport aux politiques, et aussi parce que dans ces deux domaines, on va voir que les femmes n'étaient pas restées les bras croisés et qu'elles avaient milité, œuvré pour essayer d'acquérir un droit à l'éducation et un droit aux politiques, un rapport aux politiques. Alors, les filles à la conquête de l'école, je rappellerai simplement que si le débat a été ouvert au moment de la Révolution française, il a vite été refermé, et qu'à part un Condorcet, j'y reviendrai un petit peu plus tard, qui est très favorable aux droits des femmes et à l'éducation des filles, l'essentiel des législateurs révolutionnaires, même favorables à l'éducation féminine, n'envisage pas à cette éducation d'autres débouchés pour les femmes que la vie au foyer. Donc finalement, si je me rapproche de ma période, l'époque contemporaine, alors au XIXe siècle, il ne faut pas croire qu'il n'y avait rien. Parce qu'aujourd'hui, les lois Ferry sont tellement célèbres qu'on a l'impression qu'avant l'école laïque, gratuite, obligatoire, il n'y avait pas d'école en France. C'est tout à fait faux. Beaucoup de communes avaient déjà des écoles qu'elles finançaient tant bien que mal, plutôt mal que bien parfois. Et le grand enjeu pour la scolarisation au XIXe siècle, c'est l'école primaire. Et vous avez une loi en 1833 qui oblige les communes de plus de 500 habitants à ouvrir une école primaire pour les garçons. Mais pour avoir la même loi pour les filles, toutes les communes de plus de 500 habitants doivent financer une école publique. Eh bien, il faut attendre 34 ans de plus avec la loi Victor Duruy en 1867. Donc, on voit le décalage entre ces deux lois. Ça veut dire quoi? Alors les filles, elles étaient scolarisées comment? Eh bien souvent, les filles étaient scolarisées dans des écoles tenues par des religieuses, des congréganistes, y compris dans les écoles publiques. Je vais tout simplement vous donner un chiffre. En 1863, 70% des institutrices des écoles publiques sont des religieuses, alors qu'il n'y a que 15% des instituteurs, à la même époque, qui sont des religieux. Et cela correspond tout à fait à une idée que l'on a au XIXe siècle, que la femme a en sorte deux éducatrices naturelles, d'un côté sa mère, qui lui transmet des savoirs pratiques, mais aussi de savoir qu'est-ce que c'est qu'être femme, comment on devient femme, et puis d'un autre côté l'Église à travers ses établissements congréganistes. Alors certaines femmes s'étaient émues de cette question de la scolarisation des filles, et dès 1835, Sophie Mazur, qui est une Saint-Simonienne, j'y reviendrai un petit peu plus tard, réclame déjà des écoles normales pour former des institutrices. Lamartine se fait l'écho de cette demande à l'Assemblée, mais il n'obtient pas de, il n'obtient pas de résultats. Et c'est plus tard qu'on ouvrira des écoles normales pour former des institutrices. Ces écoles normales seront ouvertes, alors cette fois-ci, par la même loi, la loi Paulbert en 1879, on est rentré là dans les débuts de la Troisième République, hein, où désormais tous les départements devront avoir une école normale pour former d'un côté les instituteurs et les institutrices. Alors, cette école primaire, c'est l'école pour tous au XIXe siècle. L'enseignement secondaire ne concerne qu'une petite partie de la population, une élite, et encore moins les filles que les garçons. Et pourtant, là aussi, il y a eu des femmes qui ont, je dirais, mis les premières le pied dans la porte pour ouvrir la porte, et notamment Julie Daubier, qui est la première bachelière de France. Alors, elle passe son baccalauréat et l'obtient en candidate libre, alors qu'elle est déjà âgée d'une trentaine d'années, dans l'Académie de Lyon. L'Académie de Paris avait refusé. Hein, et il lui faut attendre encore pas mal de temps pour avoir le diplôme en main. Son village natal a d'ailleurs consacré une fresque, en quelque sorte, sur la maison natale d'Eugénie Daubier, à Fontenoy-le-Château, dans les Vosges. Et on peut lire sur le tableau, et on reconnaît à côté de Julie Daubier, Jules Ferry, c'est Roux Flaquette, « La femme deviendra dans la société tout ce qu'elle sera capable d'être ». Et Julie Daubier ne s'arrête pas là, parce qu'elle publie aussi un ouvrage qui s'appelle « La femme pauvre » en 1866. Parce que Julie Daubier considère que, pour une femme seule, qui vit un peu... Oui, qui ne peut compter que sur elle-même, eh bien, les conditions sont bien plus difficiles que sous l'Ancien Régime, parce qu'il n'y a plus ces solidarités, et que si elle n'a pas une éducation et un débouché professionnel, elle est vraiment dans une condition terrible qui la pousse soit vers la prostitution, soit vers la mendicité, et donc elle estime que vraiment, il faut que ces femmes aient accès à une éducation. Et Michel Perrault dit finalement, Julie Daubier, c'est la première historienne des femmes qui fait une enquête sur les conditions des femmes pauvres. Elle ne s'arrête pas là, toujours en candidate libre, elle passe une licence de lettres, parce qu'on a le droit à ce moment-là de passer les examens, mais on n'a pas le droit de suivre les cours. Alors, cet enseignement, vous le voyez dans le secondaire, pour l'instant, il n'existe pas, il faut se présenter comme candidate libre, etc., etc. Là, je vous ai mis une école normale d'institutrice, hein, que vous devez reconnaître, parce que c'est celle de Chambéry, évidemment. Et puis surtout, il va y avoir une loi. Alors, je ne sais plus si je l'avais marqué sur ma diapo précédente. Oui, en 1880, c'est la loi Camille C qui institue un enseignement secondaire public. Alors cet enseignement secondaire public, bon, c'est un grand progrès puisque ça va sortir les filles des seuls établissements qui pouvaient exister, qui étaient des établissements congréganistes, mais il ne débouche pas sur la préparation du baccalauréat. On s'arrête un an avant. Et puis on n'étudie pas les langues anciennes. Et puis on n'y fait pas de philosophie, c'est remplacé plus ou moins par des cours de morale. Donc ça c'est 1880 et il faut attendre 1919 pour avoir l'instauration d'un baccalauréat féminin. Et puis en 1924, les programmes, les contenus, les épreuves sont harmonisés entre baccalauréat masculin et féminin. Alors, il a fallu du temps pour que ces filles donc accèdent à peu près dans les mêmes conditions à l'enseignement secondaire. Mais ce qui m'a frappé, c'est de voir ensuite à quel point la progression de la scolarisation des filles est rapide. En 1914, lorsqu'elle le passe au fond... je dirais, en candidate libre, il n'y a que 6% des bacheliers qui sont des filles. Mais à la fin, en 1939, elles représentent 36%. Donc dès 1939, alors que ce bac n'a été instauré que 20 ans auparavant, elles sont plus du tiers du nombre des bacheliers. Donc c'est une progression extraordinaire. Et si je m'avance un petit peu dans ma chronologie, au début des années 60, elles sont aussi nombreuses, et comme vous le savez peut-être, aujourd'hui elles sont plus nombreuses, il y a plus de bachelières que de bacheliers. Donc une fois que la porte a été ouverte, eh bien, je dirais que les filles se sont engouffrées dans cette scolarisation. Alors l'accès aux études supérieures reste un peu plus compliqué, mais là encore c'est très rapide, puisqu'en 1940, un tiers des étudiants sont des étudiantes. Voilà. Même s'il a fallu attendre la fin des années 30 pour qu'une femme puisse s'inscrire à l'université sans l'autorisation de son mari, hein, lorsqu'il s'agit de femmes mariées. Donc, premier élément sur cette scolarisation, et j'arrête là parce que ça ne veut pas dire qu'ensuite il n'y a pas d'autres choses qui se posent pour l'éducation des filles, aujourd'hui notamment leur moindre orientation dans les filières scientifiques ou d'autres éléments, mais en tous les cas, elles ont là acquis des droits égaux à ceux des garçons. Or, le manque d'éducation des filles avait été le grand argument des hommes politiques qui voulaient refuser le droit de vote aux femmes, en disant, dans l'idée, c'est bien, sauf que pour l'instant, ce n'est pas possible parce que les femmes ne sont pas assez éduquées. Alors, à partir du moment où, déjà, elles ont été scolarisées en primaire, le droit de vote, on devrait leur donner, puisque l'immense majorité de la population en France était scolarisée par l'école primaire qui se terminait hein, par éventuellement le certificat d'études. Alors, est-ce que cela a été le cas? Est-ce que ces femmes ont accédé au même droit politique que les hommes? D'un point de vue politique, sur les droits politiques, eh bien, c'est une longue exclusion qui a perduré, je dirais. Hein. Et on aurait pu espérer que le moment de la Révolution française soit plutôt un moment d'émancipation. Mais ce ne va pas être le cas, car les révolutions françaises vont distinguer entre citoyenneté civile et citoyenneté politique. Sieyès l'explique à l'Assemblée. Tous ont droit à la liberté de leur personne, de leur propriété, de leur liberté, mais tous n'ont pas droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs publics. Tous ne sont pas citoyens actifs. Les femmes, du moins dans l'état actuel, les enfants, les étrangers, ceux qui ne contribueraient en rien à soutenir l'établissement public, ne doivent point influer activement sur la chose publique. Donc vous voyez qu'au moment de la Révolution française, on met les femmes dans un paquet avec les enfants et les étrangers, en disant que puisqu'elles ne contribuent pas, ce qui veut dire qu'on estime qu'elles ne travaillent pas, qu'elles ne paient pas d'impôts, qu'elles ne contribuent pas à la chose publique, et donc elles sont privées de droits politiques et sont citoyennes passives, ce qui veut dire d'ailleurs que là, on va faire une espèce de tour de passe-passe et qui va durer longtemps. On dissocie la nationalité de la citoyenneté. Pour nous, aujourd'hui, c'est une évidence que ça va ensemble, nationalité et citoyenneté. Mais ça a été dissocié longtemps et dans bien des cas, c'est le cas pour les femmes, mais ensuite, et même enfin, sous la Troisième République, c'est concomitant, on le dissocie pour les habitants des colonies, qui auront la nationalité, mais pas la citoyenneté. Ce qui suppose quand même des acrobaties juridiques assez extraordinaires. Donc la Révolution française hein, n'est pas ce moment d'accès aux droits politiques. Alors il y a un moment de mobilisation des femmes, et qui est les années 1830. On a beaucoup de femmes qui sont des saint-simoniennes. Le saint-simonisme, c'est une théorie politique un peu utopique, qui est une philosophie du progrès, qui croit à une aristocratie des talents, à une sorte de fraternité, presque de religion nouvelle. Et là, vous avez beaucoup de femmes liées à certains saint-simoniens qui jouent un rôle important, qui éditent des journaux. Et on va trouver là une activité récurrente de ces femmes. Un de ces journaux s'appelle « La femme libre ». J'ai choisi ici le cas de Eugénie Niboyer, qui prend un rôle éducatif dans le monde, enfin qui veut une éducation dans le monde ouvrier. Toutes veulent le croire à une nouvelle forme d'émancipation féminine, certaines dans tous les domaines, l'éducation, mais aussi la vie privée, la sexualité. Elles éditent, donc je l'ai dit, de nombreux journaux, et bizarrement, cette effervescence militante des femmes de ce début des années 1830 est ensuite complètement oubliée. Il faudra attendre des historiennes, 150 ans plus tard, pour revenir sur ce moment d'émancipation féminine. Alors ces saint-simoniennes, elles continuent au moment de la Seconde République hein, à agir et à demander un certain nombre de droits. toutes ne sont pas des femmes des catégories supérieures, beaucoup le sont. On peut penser à Louise Collet, par exemple, hein, une des maîtresses de Flaubert, qui a une grande correspondance avec Flaubert. On peut penser à Adèle Esquiros, elle lance des journaux. Mais il y a aussi Jeanne de Rouen, qui est une ouvrière lingère autodidacte, qui a passé son brevet d'institutrice et qu'on retrouve dans ce cercle des Saint-Simoniennes, qui ensuite, au moment de la Seconde République, profite de ce moment aussi d'ébullition politique pour demander des droits égaux en politique. Mais pour les républicains de 1848, les femmes doivent se contenter, là encore, de la famille en raison de leur infériorité physique, intellectuelle, de leur manque d'instruction et aussi beaucoup, un des reproches récurrents qui est fait à ces femmes, c'est qu'elles sont soumises aux préceptes de l'Église et que donc, surtout, il ne faut pas leur donner des droits politiques parce que c'est faire entrer le curé. Alors, ça repose en partie sur un fait réel, c'est que effectivement, les femmes sont restées au XIXe siècle beaucoup plus pratiquantes, hein, que les hommes qui se sont éloignés pour diverses raisons des pratiques religieuses. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va leur reposer jusqu'en 1940. C'est ce que, par exemple, prétendait Michelet, hein, l'historien Michelet. Accorder aux femmes le droit de voter immédiatement, ce serait faire tomber dans l'urne électorale des bulletins pour les prêtres. Donc, pas question, on ne va pas donner le droit de vote aux femmes. Alors, ces femmes, sous la Troisième République, vont se mobiliser, et la première suffragette française est sans doute Hubertine Auclair. Alors, Hubertine Auclair fait du droit de vote le préalable nécessaire à toute évolution pour les femmes. Elle dit que ce n'est pas la peine de se battre tous azimuts, le préalable, ce qu'il faut obtenir avant tout, c'est le droit de vote. Elle n'est pas entendue et elle recourt donc à des méthodes des suffragettes anglaises qu'on pourrait appeler de la désobéissance civile. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, Hubertine Auclair? Elle dit, on ne nous donne pas le droit de vote parce qu'on dit qu'on ne contribue pas. Alors à l'inverse, le propos, elle dit, bah, du coup, moi, je ne contribue pas. C'est-à-dire, je ne paye pas mes impôts. Et elle va jusqu'au Conseil d'État qui lui donnera tort. Donc elle sera quand même obligée de payer ses impôts. Mais bien entendu, entre-temps, elle a beaucoup écrit, œuvré, pour diffuser cette revendication d'un droit de vote. Mais à ce moment-là, on est un peu dans une image du droit de vote utilitariste, parce qu'on va donner aux femmes une sorte de spécificité. On peut réclamer le droit de vote pour les femmes en disant que c'est un droit naturel, et donc tout être humain ayant accès à un droit naturel, on ne peut pas priver une partie de ces êtres humains d'un droit naturel. Bon, et ça s'arrête là. Mais la vision utilitariste de dire « Ah, mais elles joueraient un rôle positif parce qu'elles vont s'intéresser à des sujets qui n'intéressent pas les hommes, elles seraient de bonnes législatrices pour supprimer les taudis, pour combattre l'alcoolisme. » Et cette vision utilitariste du vote des femmes fait que, en réalité, la revendication du droit de vote pour les femmes est beaucoup plus populaire finalement dans les milieux chrétiens, notamment catholiques en France, qui sont majoritaires, hein, parce qu'on veut donner à ce vote une spécificité. Ça serait presque un vote familialiste aussi. Hein. Alors je passe le temps qui me reste. Parmi ces autres, je passe pour, je ne veux pas manger trop de temps, il y a aussi Marguerite Durand. Alors Marguerite Durand, on va la voir sur ces deux diapositives, pour défendre la cause des femmes, elle a une entreprise tout à fait originale. Elle est la fondatrice d'un journal qui est entièrement fait par les femmes. Non seulement il est entièrement rédigé par les femmes, les typographes sont des femmes, donc c'est une œuvre entièrement faite par les femmes. Et pour la petite histoire, elle est la fille de l'auteur d'un dictionnaire des femmes célèbres. Donc le père se doutait peut-être pas qu'en faisant ce dictionnaire des femmes célèbres, un jour, sa fille pourrait tout à fait prétendre à rentrer dans le dictionnaire des femmes célèbres. Alors, après la Première Guerre mondiale, il semblerait que, d'abord, plusieurs pays donnent le droit de vote aux femmes, que les femmes ont démontré toute leur capacité à se mobiliser, à exercer différents métiers, et que le moment est vraiment propice pour voter ce droit de vote. La Chambre des députés vote en faveur du droit de vote des femmes. Mais le Sénat refuse, et à ce moment-là, sous la Troisième République, hein, le Sénat peut s'opposer de façon pérenne à tout vote d'une loi. Il faut sinon qu'il y ait une majorité à la Chambre et au Sénat. Ce n'est pas le cas. Dans les années 30, on aura le même scénario. La Chambre des députés vote en faveur, mais le Sénat retoque. Alors pourquoi le Sénat retoque? Parce qu'il a une coloration plus radicale, radicale socialiste, c'est-à-dire un parti très laïque et qui se méfie notamment de cette coloration plus catholique des femmes. Donc un certain nombre de nouvelles féministes s'engagent toujours dans cette cause pour obtenir le droit de vote, notamment Louise Weiss, agrégée de lettres, qui a été infirmière pendant la guerre, et qui fonde une revue, et en plus une revue finalement de politique internationale, l'Europe Nouvelle. Elle prône un rapprochement franco-allemand, et elle milite donc pour des droits politiques des femmes. Et elle essaie, c'est quelque chose aussi qui est très présent dans notre paysage actuel, hein, de trouver des moyens pour frapper l'opinion. Alors pour frapper l'opinion, alors elles ont souvent ces pancartes, la France doit voter. Elle a l'idée finalement de plusieurs manifestations. Elle essaye de divertir, elle essaye de trouver un autre mode de communication plutôt que d'avoir un discours qui semblerait un peu trop un prêche en faveur des droits des femmes. Par exemple, elle recrute les trois plus célèbres aviatrices du temps et elle va faire un meeting aérien avec Adrienne Bolland et Hélène Boucher. Adrienne Bolland, c'est la première femme à effectuer la traversée de la Manche, puis elle a opéré une traversée des Andes. C'était très périlleux parce qu'elle avait un avion qui pouvait pas aller à plus de 4000 mètres d'altitude et a priori il y avait des sommets plus hauts. Enfin bon, elle réussit à tous les cas à faire l'itinéraire. Hélène Boucher, c'est la quatrième femme à obtenir son brevet de pilote professionnel. Elle meurt en 1934 suite à un accident d'avion. Donc vous comprenez que ça, effectivement, ça mobilise beaucoup de monde. C'est spectaculaire, toujours pour revendiquer le droit de vote pour les femmes. Autre élément, en 1936, au moment du Grand Prix de Longchamp, les féministes envahissent la piste et brandissent leurs affiches « La femme doit voter ». Donc ces femmes, elles se sont mobilisées et vous voyez que depuis le début du 19e siècle, depuis la Révolution française, je n'ai pas reparlé d'Olympe de Gouges qui rédige cette déclaration des droits de la femme, de Condorcet qui rédige aussi un texte pour montrer que il est obligatoire de donner les mêmes droits politiques aux femmes, sinon ça revient à nier les droits naturels. C'est finalement, comme vous le savez, en 1944 que l'Assemblée consultative d'Alger vont faire les femmes électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Après, beaucoup d'autres pays, l'Espagne 1931, les pays scandinaves ont été parmi les premiers, l'Allemagne 1918, voilà. On n'est pas les derniers, l'Italie c'est aussi après la Deuxième Guerre, mais ça a été malgré tout très tardif et cela peut paraître contradictoire avec cette image de pays de la Révolution, de pays des droits de l'homme. Certaines historiennes ont parlé presque d'énigmes à ce propos, d'autant que si on prenait l'histoire plus récente, après 1947, on verrait que même si elles sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions, pendant très longtemps, elles ont été fort peu nombreuses dans les assemblées, fort peu nombreuses dans les organes exécutifs. Je m'arrête là parce que ces femmes, et je vous invite à venir, je vais vous laisser ma place. J'ai dit qu'elles avaient joué un rôle pendant la Première Guerre. Elles ont joué aussi un rôle pendant la Deuxième Guerre. Elles ont joué un rôle aussi pendant la Résistance. Et ben moi, quand j'étais petite, que j'étais à l'école, quand j'étais au collège, j'ai toujours vu des messieurs qui venaient me parler de la Résistance, des résistants. Je n'ai jamais vu de femmes. Et alors elles vont nous dire si, et ils vont nous dire. Alors là, du coup, lui, il subit la loi à l'envers, parce que comme il y a trois filles dans le groupe, je dis toujours, en parlant de ce groupe, elles font ceci. Donc Lucas, vous m'en excuserez.
Hein. Bien, bonjour à tous. Merci madame de nous laisser ces quelques minutes pour présenter notre projet. Alors du coup, nous sommes quatre étudiants du Master Patrimoine de l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Donc on a Lucille Morel qui est devant, Amandine Tercero, Clara Mazin et moi-même Lucas Papadélis. Donc nous travaillons sur un projet qui est assez original et qui est spécifique à l'université. C'est un mémoire de recherche qui associe aussi un projet de valorisation du patrimoine. Et donc à l'origine du projet, on avait l'envie de travailler sur l'histoire des femmes, sur un projet du patrimoine. Et c'est par une commande de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Savoie qui nous a demandé de réaliser une exposition itinérante sur la résistance en Savoie, qu'on a décidé de, pour notre sujet de recherche, travailler sur les femmes dans la résistance en Savoie. Et pour l'exposition itinérante, qui sera principalement destinée aux collégiens et lycéens du département, de faire une histoire à part égale entre les femmes et les hommes dans la résistance en Savoie. Voilà. Voilà, donc on a commencé nos recherches au mois d'octobre par des lectures d'ouvrages scientifiques assez classiques. On s'est d'abord intéressé aux ouvrages sur la résistance en général, puis on a affiné un peu nos recherches sur les femmes dans la résistance, sur la résistance en Savoie, et on s'est aperçu qu'il y a quand même un gros angle mort concernant les femmes dans la résistance en Savoie. On n'a pas trouvé d'ouvrage dessus, donc ça nous conforte dans l'idée qu'on doit amener notre pierre à l'édifice pour ce sujet. Et actuellement, on travaille aux archives départementales sur des dossiers de demande de la carte du combattant volontaire de la résistance, carte CVR. C'est des dossiers en fait qui peuvent être demandés pour soi ou pour des connaissances. Et à travers ces dossiers, donc, on peut sortir une nombre, en fait, un certain nombre de femmes qui ont eu ou pas cette carte. Et dans ces dossiers, donc, on a des infos très générales sur l'état civil et aussi surtout sur leur engagement, dans un groupe ou non d'ailleurs, et sur les actions qu'elles vont mener dans cette résistance. Et donc je vais laisser mes camarades évoquer la suite de nos recherches et les premiers résultats qu'on a obtenus.
Bonjour, donc moi je vais vous parler de toute la partie historiographique sur les femmes dans la résistance, qui se décompose en deux temps. On a une première partie fin des années 60 et années 70, avec à cette période-là, entre 2 à 3% seulement des noms de résistants qui sont des noms de femmes, jusqu'à la fin des années 70. Donc là, on a, comme l'a expliqué notre professeur Adam Bonafou, un élan dû potentiellement à mai 68 et au nouveau féminisme, qui va pousser des femmes à prendre la parole, et notamment des rescapés de la déportation, qui l'ont été pour des faits de résistance ou non. Et la première grande initiative d'envergure à ce sujet, c'est un colloque de l'Union des femmes françaises qui est organisé en 1975 à la Sorbonne, qui a pour sujet les femmes dans la résistance. C'est à ce moment-là que de nombreux témoignages vont être pris en compte et diffusés. Le deuxième élan concernant les femmes dans la résistance va se faire dans les années 90 avec l'arrivée des gender studies en France. Et c'est à ce moment-là qu'on trouve une tentative d'explication de l'invisibilisation des femmes dans la résistance, dans les ouvrages qui traitent de cela. Et on le retrouve notamment dans l'ouvrage « Histoire des femmes en Occident au XXe siècle » de Michel Perrault et Georges Dubuis. Je vais vous en citer un petit extrait. « L'aspect domestique des faits accomplis occulte ou fait oublier le risque encouru. Les bonnes hôtesses qui ont hébergé et nourri en complicité avec leurs époux considèrent souvent que c'était normal. » Donc là, on va avoir tout un pan d'explications liées aux mœurs de la société de l'époque pour expliquer cette absence de reconnaissance des femmes. On va avoir un autre ouvrage à la fin des années 90 qui est important, je trouve, à citer. C'est « Les combattantes de l'ombre, histoire des femmes dans la résistance » de Margaret Collins-Waite, qui regroupe un grand nombre aussi de témoignages sur lesquels elle fonde son ouvrage. Donc sur un point de vue national, on a quelques noms qui reviennent très régulièrement, comme Lucie Aubrac, Bertie Albrecht ou Geneviève de Gaulle-Antonioz, par exemple. Et nous, ce qu'on veut, c'est apporter un angle, un point de vue beaucoup plus local et donc départemental sur la Savoie. Ma collègue vous parlera de plusieurs portraits de femmes savoyardes qu'on a trouvées. Et donc on voit qu'en définitive, les femmes restent très absentes de cette historiographie liée à la résistance. Et donc voilà, ce qu'on veut vraiment faire sur ce sujet, c'est apporter... c'est vraiment apporter notre angle de vue aussi pour mettre en valeur cette histoire.
Donc pour ma part, bonjour. Je vais parler d'un rapide constat général du début de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et donc du rôle des femmes dans cette résistance. Donc avec la signature de l'armistice en juin 1940, cela signe le début donc, de l'occupation en France avec une zone libre et une zone occupée. Donc si on prend l'exemple du territoire de la Savoie, la Savoie est dans un premier temps dans cette zone libre. Et ensuite, il y a une occupation italienne, donc de 1942 à 1943. Et donc, c'est à ce moment que une résistance commence à se mettre en place en Savoie. Mais de façon générale, la résistance apparaît réellement avec cette signature de l'armistice. Donc, au sein de cette résistance, on distingue deux types. Avec une résistance dite civile et une résistance dite armée. Donc l'historiographie, dans un premier temps, juste après la Seconde Guerre mondiale, s'intéresse plus à cette résistance armée. Donc qui est la résistance dite des hommes, enfin la résistance masculine, alors que les femmes, en revanche, ont un rôle plus important dans une résistance civile. Car comme l'évoquent Georges Duby et Michel Perrault dans leur ouvrage « Histoire des femmes en Occident, le XXe siècle », dans le chapitre « Les Françaises sous Vichy », les femmes ne sont que très peu présentes dans des grands services, des organigrammes, des mouvements ou dans la lutte armée, parce qu'en fait, les femmes, tout simplement, ont des rôles bien précis dans la résistance. Par exemple, elles sont souvent secrétaires, agents de liaison, agents de renseignement. Mais lors de nos recherches, on a constaté que cette résistance peut également naître et vivre au sein d'un foyer, parce que les actions ne sont pas forcément genrées, alors que l'historiographie, juste à présent, montre un peu ces actions et fait une résistance genrée, mais ce n'est pas forcément le cas, parce que nous avons contacté souvent des dynamiques de couple. Par exemple, nous avons étudié un corpus de Juste en Savoie, et on a remarqué que, par exemple, le fait de cacher et héberger les Juifs, c'est souvent une volonté donc, de couple, une dynamique de couple. Et de plus, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a des représentations sur ces femmes donc, qui sont partagées entre l'occupant et les Français, mais sont aussi, bien sûr, des volontés politiques des gouvernements de l'époque. Et certains stéréotypes sont attribués aux femmes. Donc ici, j'ouvre des guillemets, bien sûr. Les femmes, à l'époque, étaient considérées souvent comme ignorantes, subalternes, voire innocentes. Mais les femmes vont user de ces stéréotypes, justement, on va dire, à leur avantage, bien sûr, pour entreprendre des actions au sein de la résistance. Et donc, ces stéréotypes vont être à leur avantage, par exemple, quand elles vont devoir échapper à des contrôles d'Allemands lorsque cela est nécessaire.
Donc, moi, je vais insister sur des portraits de femmes résistantes en Savoie. Justement pour sortir de ces grandes figures nationales dont vous avez certainement déjà entendu parler. Et comme le sujet est plus local, j'ai envie de vous partager des portraits de personnes en Savoie. Donc je vais vous présenter des portraits assez connus. Je ne sais pas si vous connaissez Paulette Besson, mais c'est une des figures les plus connues de résistantes en Savoie. Et on avait aussi envie de vous présenter des figures qui sont plus effacées, qui sont plus méconnues, mais tout aussi importantes et qui ont fait des actions qui sont aussi louables. Donc Paulette Besson, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc, elle travaille en fait au service des cartes d'identité à la préfecture de Savoie à Chambéry en 1942. Elle a un poste donc, de sténodactylo avec une autre résistante qui est Armelle Glin, qui fait partie du même réseau de résistantes que Paulette Besson. Paulette Besson, elle est fiancée avec Élie Giraud, qui est engagée dans le réseau Noël. Donc c'est un réseau des forces françaises combattantes. Et donc le réseau Noël a depuis 1943 un poste de commandement national à Chambéry. Et donc son chef, Georges Aurel, il a besoin donc de quelqu'un pour lui apporter des informations qui doivent parvenir jusqu'à Londres. Et donc Élie Giraud recrute Paulette Besson. Et donc elle entre dans le réseau Noël en septembre 1943. Donc Paulette, elle édite des faux passeports de la préfecture donc pour couvrir en fait des résistants, des hommes qui sont recherchés, aussi donc des juifs. Elle effectue aussi donc des liaisons, puisque le réseau Noël il est plutôt tourné vers le renseignement. Paulette Besson, elle démissionne de son poste à la préfecture et elle est employée au bureau de placement allemand. Donc ça lui permet, donc, c'est une couverture qui lui permet de récolter évidemment beaucoup d'informations. Elle fait preuve donc, de beaucoup de sang-froid, de sagesse et d'efficacité dans ce réseau. Le 30 mai 1944, les agents de la Gestapo, ils arrêtent en fait les membres du réseau Noël lors d'une réunion. Et donc Paulette, elle est emmenée au siège de la Gestapo à Chambéry, la villa aménagée, pour ceux qui connaissent. Elle subit donc des interrogatoires, puis elle est internée au carré Curial, où nous sommes aujourd'hui. Ensuite, à la prison de Montluc à Lyon. Elle est transférée à Romainville et elle est déportée le 11 juillet à Ravensbrück, puis à Neuengamme, au commando d'Helmstedt-Bendorf. Elle meurt malheureusement du typhus le 8 octobre 1944. Elle reçoit ensuite, après sa mort, la croix de guerre avec citation à l'ordre de la division et le diplôme du royaume de Belgique. Ensuite, je vais vous présenter deux autres portraits de femmes. Malheureusement, je n'ai pas de photographie. de ces personnes. Donc je vais rester avec Paulette Besson. Donc je vais vous présenter le portrait de Blanche Lingot. Je ne sais pas si quelqu'un la connaît ici. Donc elle est orpheline, elle est placée chez des paysans dans le Beaufortin et elle s'installe ensuite à Moutier avec son mari, donc en 1938. C'est donc Louis Lingot, son mari, surnommé du Rhône, qui crée donc en 1942 l'armée secrète de Tarentaise, puis MUR, donc ces Mouvements Unis de la Résistance, en 1943. Donc, et Blanche, elle participe à l'action clandestine de son mari. Elle aide donc son mari à fédérer les résistants de la vallée et elle joue le rôle d'agent de liaison. Elle distribue des tracts, des journaux, elle a des missions de renseignement, elle camoufle des armes, des munitions et aussi des postes émetteurs. Elle est aussi en contact avec l'abbé Georges Mouillard, qui fait partie de l'Intelligence Service et donc le service de renseignement britannique. Elle note donc des informations de résistants à l'abbé, qui ensuite les transmet à Londres grâce à la radio. Et donc Blanche Lingot, elle héberge aussi des officiers en mission interraillés de l'Union 1. Elle cache dans son grenier de son immeuble donc ces personnes et aussi des armes, des explosifs, des papiers compromettants, des tracts. Le 3 mai 1944, elle fait échapper son mari et deux autres résistants. Elle subit des interrogatoires, des fouilles de la Gestapo chez elle. Elle a réussi donc à échapper à la Gestapo et après la guerre, elle reçoit la Croix du combattant, la carte, on a dit, de volontaire de la résistance. Elle est décorée et elle est citée par le roi d'Angleterre de l'ordre British Empire pour une conduite héroïque et en reconnaissance des services rendus à la cause alliée pendant la guerre. Elle est faite aussi chevalier de la Légion d'honneur en 2008 et elle a fait partie de plusieurs associations d'anciens combattants après la guerre. Et enfin, je vais m'arrêter sur Éliane Barbier. Donc, Éliane Barbier, elle rentre en résistance au tout début de la guerre, dès 1940-1941. Et donc, elle distribue à ce moment-là des tracts et des journaux. Sous le pseudo donc René, elle utilise l'appartement de ses parents comme lieu de rendez-vous pour les résistants à Chambéry. Elle sert donc d'agent de liaison. Son père est un cheminot à la SNCF. Vous savez que la SNCF a été aussi assez engagée, enfin des cheminots, dans la résistance, et donc il transmet des renseignements sur le trafic ferroviaire pour mener des actions de sabotage et anticiper l'arrivée des Allemands. Elle a aussi son cousin, donc, qui est Adrien Albaran, nommé François Barral, qui est un prisonnier de guerre évadé et qui fait partie du réseau de renseignement Corvette. C'est lui donc, qui engage Éliane Barbier comme secrétaire à Lyon entre janvier et mai 1943. Donc les résistants, ils se donnent rendez-vous chez les parents d'Éliane. Donc on retrouve Henri Miconnet, Robert Modelon, Joseph Vépress, Mario Schlippa, les frères Jean et Paul Rosier et plusieurs autres hommes. Donc mi-1943, Éliane, elle a donc des missions de renseignement pour l'armée secrète et aussi plus particulièrement pour Hector Butin, donc qui est le chef du deuxième réseau de renseignement de l'AS, puis des FFI. Fin 1943, Butin y déplace son poste de commandement à Chambéry, puis à École-en-Bauge, où Éliane donc, elle lui rapporte régulièrement des messages une fois par semaine entre Chambéry et École-en-Bauge. Elle fait aussi des liaisons entre Annecy et Albertville, et donc elle effectue toutes ses missions avec le réseau Corvette et les frères Rosier. À la fin de la guerre, elle reçoit la Croix de guerre avec étoile d'argent. Donc voilà, c'était les trois portraits que nous avions envie de vous présenter, mais évidemment, il en existe beaucoup d'autres. Nous avons en effet, pour l'instant, rencontré 160 dossiers de femmes résistantes dans les archives de l'ONAC que nous sommes en train de consulter. Je vous remercie pour votre attention et je crois qu'on va passer au débat.
Voilà. Madame Bonafou, voilà, je vous laisse reprendre place. C'est enregistré, donc je vous laisse prendre le micro pour poser vos questions. Je pense qu'il y a plusieurs. Je pense que le sujet était passionnant. Merci en tout cas pour ce focus sur cette période de notre histoire locale. Je pense qu'on peut. Voilà, je vous passe la parole.
Pour revenir au niveau national, alors quand est-ce qu'on va modifier la Constitution et parler de droits humains et non plus de droits de l'homme? À l'étranger, donc à l'international, on parle de droits humains et en France, on parle toujours du droit de l'homme. Donc on est très en retard.
Oui, c'est une remarque qui n'appelle pas, je pense. Peut-être on peut prendre 2-3 questions d'affilée.
Ah, d'accord. Je voudrais savoir si les étudiants ont fait appel à des témoignages à Chambéry d'anciens résistantes.
Eh bien, pas encore, malheureusement. On cherche, mais les personnes se font rares qui peuvent encore témoigner de cette période-là. Donc, on va chercher à rentrer en contact peut-être avec des enfants, petits-enfants, ou via des associations d'anciens résistants, pour avoir des témoignages indirects, du coup, mais voilà.
D'ailleurs, ça peut être l'occasion de passer un message, parce que c'est ce que je leur disais, c'est qu'en fait, bon, soit par la presse, avec une petite annonce, parce qu'une des choses qu'ils aimeraient savoir, justement, c'est, donc dans les familles, si par, vous avez eu connaissance, comment les résistants, les hommes, quand ils ont, avec une fiancée, avec une femme, etc., été en résistance, en couple, ensemble, quelle a été ensuite, dans le récit familial, la place de l'un et de l'autre ? Et ça, ça serait justement très intéressant à connaître, à savoir. Donc si parmi vous, il y a des gens qui ont eu un grand-père, une grand-mère et qui ont des souvenirs, ou voilà, par le bouche à oreille, ça serait une source tout à fait intéressante dans cette construction de la mémoire. Voilà.
En fait, on est déjà en contact avec des associations d'anciens combattants. On a réussi à récolter des documents. Certains nous ont aidés aussi par le biais de journaux à diffuser notre message. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas réussi à rentrer en contact avec des résistants. Mais comme disait Clara, c'est compliqué de par leur grand âge, souvent. Il y en a beaucoup qui sont décédés, donc voilà, on va essayer. Mais en fait, malheureusement, on est obligé de faire une histoire indirecte par plutôt les sources écrites ou des enregistrements qu'on a récupérés.
Comme j'ai beaucoup d'historiens face à moi, on se rend compte bien des oublis, de cette invisibilité, mais alors comment recoller, retrouver les morceaux quand on est sur des périodes encore plus anciennes que la Seconde Guerre mondiale ? Comment travaille l'historien et l'historienne ?
Donc c'est la question des archives, hein, la question des sources. Alors, il y a des sources qu'on connaissait, mais qui sont revisitées parce qu'on pose de nouvelles questions. Et parmi les historiennes, j'ai cité Arlette Farge. Et Arlette Farge, par exemple, elle a beaucoup travaillé sur les archives judiciaires, les procès. Et ben, dans ces archives judiciaires, si on s'intéresse à l'histoire des femmes, on va trouver une quantité d'éléments intéressants. Parce qu'on a des femmes, par exemple, qui témoignent dans les procès de violences qu'elles ont subies. Il y a des femmes qui sont elles-mêmes accusées d'un certain nombre de choses, bon, infanticide, d'autres éléments. Alors c'est un exemple de dire, ben, ces archives judiciaires, on va poser un nouveau regard et on va trouver un certain nombre d'éléments. Après, tout n'est pas toujours possible, hein, sur toutes les périodes. D'autant que l'historien ne peut pas s'appuyer sur un ou deux témoignages qui seraient isolés, parce qu'on n'est pas sûr que ces témoignages soient représentatifs. Il faut qu'on en ait quand même un certain nombre pour travailler sur un corpus. Hein. Voilà. Donc sur les périodes les plus anciennes, enfin, ça dépend ce qu'on appelle, hein, mais époque médiévale, époque moderne. Alors il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, la religion joue un grand rôle et qu'on a toutes les archives religieuses. Et d'ailleurs, parmi les premiers qui ont écrit sur les femmes, eh bien, il y a les spécialistes de l'histoire religieuse. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est assez contre-intuitif. Au XIXe siècle, l'entrée dans une congrégation religieuse pouvait être un élément d'émancipation, et notamment la Savoie est très caractéristique, parce qu'il y a eu énormément de recrutement de religieuses, hein, et parce que finalement, entre sa vie de paysanne coincée peut-être sur une terre avec 4 ou 5 enfants, et puis des femmes qui ont pris notamment beaucoup de responsabilités dans les actions missionnaires, qui ont voyagé, qui ont monté des congrès, etc., etc., voilà. Et donc on a ces archives, vous voyez, par exemple les archives du religieux, les archives du judiciaire. On va aller chercher un certain nombre d'archives pour poser de nouvelles questions.
Ouais, c'est éventuellement le temps pour une petite question. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. Si on n'a pas, bah, ça vous laisse un tout petit peu plus de temps pour un mot de conclusion, pour nous laisser un message pour repartir sur la place de la femme dans l'histoire qui était le sujet de ce café débat. Qui veut se lancer ? Et c'est intéressant aussi d'avoir le regard, en tout cas l'avis de nos jeunes historiens.
Et peut-être vous pouvez nous parler, vous n'avez pas eu le temps, mais de ces femmes qui sont si nombreuses à égalité avec les hommes dans le sauvetage des Juifs, les Justes, puisque là, elles sont à peu près à parité. Donc peut-être vous pouvez finir là-dessus. Ça offrirait aussi pas mal de... Je ne sais pas s'il y en a une. Si vous pouvez en citer une ou un itinéraire. Non, je vous pose une colle.
Non, non, pas du tout. Alors, on a le cas de la famille Reverdy à Aix-les-Bains. Donc, c'est un couple d'hôteliers qui ont hébergé une famille juive. Donc, alors, je ne me souviens plus combien ils étaient, mais il y avait mari, femme et enfant. Et donc, ils vont les héberger dans un premier temps. Ils vont leur trouver des abris aussi ailleurs qu'à Aix-les-Bains, parce que les Allemands étaient à Aix. Et ils vont aussi leur garder leurs affaires personnelles, leurs documents personnels. Et ils vont leur rendre, surtout, à la fin de à la libération.
Voilà, mais c'était pour dire qu'au-delà de ces exemples, hein, les femmes ont été très actives. Très actives. Elles ont pris des risques. Elles ont aussi, non seulement hébergé, mais elles ont convoyé des enfants. Elles sont allées les chercher dans des camps d'internement qui étaient dans le sud. Elles ont trouvé des familles d'accueil. Quand ça devenait dangereux, elles trouvaient de nouvelles familles d'accueil. Et qu'effectivement, là, il y a une sorte quand même de vivier, si on veut chercher des itinéraires, des figures féminines. On a un vivier très riche et on a de belles archives, pour le coup, hein, sur ces questions-là. Voilà, ben, on vous remercie tous de votre attention et de votre présence.
Hein. Eh bien, on remercie les quatre étudiants donc, du Master Patrimoine et bien entendu de leur professeur, Madame Corinne Bonafou. Merci d'avoir consacré ce temps sur la pause méridienne. Vous pouvez aller plus loin dans l'exposition Super Ego donc, qui est à découvrir. Et le prochain rendez-vous, c'est le samedi 13 mai pour une table ronde qui aura lieu ici même. Donc vous êtes les bienvenus. Et le prochain Café Débat aura lieu le 11 mai sur l'effondrement planétaire. Merci à vous et à très bientôt. Et bon appétit pour ceux qui ont encore le temps de déjeuner. Au revoir.